Alors, je sais que aujourd'hui c'est la fête des mères et c'est une bonne chose. Ce n'est pas une fête chrétienne, c'est pas une fête, mais c'est une bonne fête, c'est des fêtes utiles, c'est bien d'arrêter, de prendre le temps, de penser à ce que nos mamans représentent, et puis surtout quand on est arrivé à certains points où on a nos propres enfants, c'est là où on commence à les apprécier. Mais voilà, alors. Bien sûr, de toutes les mères de la parole, je pense que là, Jésus a montré le respect pour sa mère à lui. Et c'est par son moyen qu'il a pu devenir homme et devenir notre sauveur. Mais je vous encourage à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le titre de notre étude ce matin. Et vous allez le trouver dans ce passage, c'est déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. C'est Jésus qui le dit. Pendant que vous cherchez le passage, eh bien, essayez de voir le contexte. Donc, Jean, chapitre 11, et je vais lire, c'est Jésus qui se trouve devant la tombe de Lazare, son ami. Donc, il avait deux sœurs, Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et suite à une maladie, Lazare est mort. Et Jésus arrive et Lazare est déjà mort. Et donc, Jésus arrive devant la tombe. Verset 34, il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, viens et vois. Et Jésus pleura. Sur quoi ils dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? C'est le genre de questions qu'on pose encore aujourd'hui, hein. Si Dieu est si puissant, si Dieu nous aime tant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas, hein, c'est le genre de... Il y a toujours quelqu'un pour poser cette question. Verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Nous avons ici ce récit de la résurrection de Lazare et de l'apôtre Jean, c'est celui qui mentionne seulement 7 miracles de Jésus. Et de parmi les centaines, on pourrait certainement dire des milliers de miracles que Jésus a fait, eh bien, c'en est un qui choisit et un quelqu'un qui va dans le détail. Et la fin de l'évangile nous dit, chapitre 20, verset 31, nous dit que ces choses ont été écrites afin que nous sachions, nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie. Donc, c'est de parmi tous les signes miracles que Jésus a donnés, eh bien, il choisit celui-là pour démontrer que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Et dans les détails que nous avons, hein, parce que nous avons quand même pas mal de détails là-dessus, c'est beaucoup de miracles, on a beaucoup moins de miracles, de détails, mais là, il y a un miracle. Il y a une chose qui dit en passant, c'est que Jésus est bien dans la tombe depuis 4 jours. Donc, il est bien mort. Hein, Lazare est bien mort. Et alors, Ensuite, Jésus arrive dans la tombe, on l'ouvre, il dit « Lazare, sort ». Non seulement il reçoit la vie, mais il sort. Et je ne sais pas si vous êtes posé la question, comment il a pu sortir ? Parce que s'il est enveloppé de bandes, tout le corps est enveloppé de bandes, et puis quelque chose par-dessus la tête, et puis c'est attaché. Vous savez, on a beau être vivant, mais on ne sort pas quand même. Hein. Mais là, quand Jésus a dit « sort », il sort. Et il est sorti, il a dû, je ne sais pas, flotter. Hein, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas ramper, il pouvait pas. Il est sorti. Et c'est pour ça que Jésus a dit « mais il est vivant. Déliez-le, laissez-le aller, donne-lui sa liberté, qu'il puisse vivre cette nouvelle vie, cette vie qu'il vient de recevoir, une grâce, on vient d'entendre le mot grâce, mais là, il lui donne une extension sur la vie, Dieu lui fait une grâce, il dit mais libérez-le, laissez-le vivre, et pour qui va-t-il vivre ? Eh bien, certainement pour Jésus-Christ. » Et ce détail-là, c'était important, mais vous vous souvenez peut-être que quand Christ est mort, il a été enseveli, lui aussi, hein, selon la coutume, il a été enveloppé des bandes, et puis après il y avait un autre tissu sur la tête. Je dis en passant, c'est pour ça que le suaire de Turin, là, c'est pas possible. Parce que la Bible dit que c'était des bandes autour du corps, et puis après il y avait un autre tissu là. Donc il ne faut pas aller chercher loin, il suffit de lire la Bible, c'est réglé. Alors, mais ce qui en arrive, c'est que, vous vous rappelez, les femmes sont venues en courant voir Jean et Pierre, et on dit, ils ont volé le Sauveur. Ils disent, c'est pas possible, ils sont arrivés en courant, et ils arrivent là, devant la tombe, et ils regardent, et qu'est-ce qu'ils voient ? Eh bien, ils voient les langes, les bandes posées par terre, et puis ils voient un tissu, qui couvre, qui était plié, le tissu qui était sur la tête, qui est plié là. Et Jésus, et tout de suite, ils ont compris que Jésus n'a pas été volé, parce que si on vole le corps, on ne prend pas le temps de déballer. Hein. Et puis que c'est plié, c'est pas seulement là, traîné en sortant, et puis il y a une partie à l'intérieur, une partie dehors. Hein. Vous avez déjà cambriolé peut-être. Il laisse pas les choses pliées et en ordre, hein. Et là, ils ont su que Jésus... Mais là, personne l'avait délié. Pourquoi ? Parce que quand Jésus est ressuscité, il avait une autre sorte de corps. Il avait un corps que la matière ne s'opposait pas. Hein. C'est comme ça qu'il a apparu dans la chambre haute, alors que tout était fermé. Donc lui, il a pu traverser les bandes, et puis même il n'avait pas besoin qu'on roule la pierre pour qu'il sorte... Il est sorti quand même, on a ouvert la pierre, roulé la pierre, c'était pour voir que c'était vide. Le signe hein, de la résurrection, quand le corps est ressuscité, on reçoit cette nouvelle vie, mais il y a toutes ces bandes encore qui sont là, qui représentent la mort. Et le Seigneur dit, déliez-le, libérez-le. Laissez-le vivre cette vie nouvelle. Et ça, c'est un principe de Dieu. C'est que quand nous recevons la vie nouvelle, eh bien, nous devons être défaits de tous les liens du passé, et quels qu'ils soient, et de pouvoir vivre la vie nouvelle en pleine liberté. Et vivre la vie nouvelle, pas seulement, on n'est pas libéré pour faire ce qu'on veut, on est libéré pour vivre la vie à la gloire de celui qui nous a donné cette vie. Et donc, il y a un principe là que nous voulons voir, et je traite un peu ce chapitre, donc au Romains chapitre 6, c'est en vue d'un baptême que nous allons avoir d'ici le mois prochain, hein, le 12 juin, nous allons avoir un baptême, mais ce n'est pas seulement un rite évangélique ou chrétien, mais c'est un symbole, et nous voulons le comprendre. Et donc, entrez, asseyez-vous. Alors, la première chose, c'est cette identification à la personne de Christ, Jésus-Christ, déjà, en un premier stade, il s'est identifié aux pécheurs. Jésus est devenu homme. Et ensuite, il y a une deuxième identification, c'est où l'homme pécheur s'identifie à Christ. Et ça, c'est très important de comprendre ce principe-là. Et donc, lorsque nous lisons, et à Noël, nous lisons toujours le récit de la naissance de Christ, mais ce qui est extraordinaire, ce n'est pas seulement qu'une vierge soit devenue enceinte, c'est déjà extraordinaire, mais c'est que c'est Dieu qui devient incarné, c'est Jésus-Christ divin qui vient et qui se revêt d'un corps humain, et qui vient et qui devient un homme, qui s'identifie à la race humaine, qui devient un avec la race humaine. Il est compté parmi les humains. Et c'est extraordinaire qu'il veuille le faire. Vous savez, moi, je n'ai jamais été Dieu. Mais j'imagine que dans ma tête d'être humain, si j'avais été Dieu, je ne pencherais jamais à devenir un être humain. Vous n'avez pas vu comme ça un crapaud comme ça devant vous et dit « Tiens, j'aimerais bien devenir crapaud, moi. » Voir comment c'est. Ça ne vous vient pas à l'idée. Et là, la différence est encore plus grande. Et que Dieu veuille s'identifier à l'homme pécheur. Et ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, par accident. Hein, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a participé au sang et à la chair. C'est une manière hébraïque de dire qu'il est devenu homme. Sang et chair, et c'est comme ça qu'il définissait l'être humain, dans Hébreux 2, 14. Mais il y a un passage dans Ésaïe 53, et tout à l'heure on parlait de Ésaïe, qui était là, 7 siècles avant Jésus-Christ. Et regardez ce que Ésaïe dit, en parlant de Dieu qui s'identifie à l'homme. Ésaïe 53 dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Imaginez, il s'est identifié non pas pour devenir un homme, mais déjà pour Jésus de devenir empereur de l'Empire romain, ce serait déjà une humiliation. Mais ce n'est pas seulement qu'il est né dans une étable, mais en plus, il a pris sur lui le péché de l'être humain. Aussi désagréable que ça peut être pour nous, imaginez combien c'est désagréable pour lui. Mais il s'est identifié, il a dit « Je deviens homme et je prends sur moi le péché, je participe à cela. » Il n'a pas péché, mais il a pris sur lui le péché. Et c'est tout le thème de Romains chapitre 5 qui justement nous parle de cette désobéissance d'Adam. Il dit « Adam ». Qui par une désobéissance a amené le péché dans le monde. Parce que d'abord c'est le péché, la nature pécheresse, le péché qui est entré dans le monde. Et parce que le péché est dans le monde, c'est pour ça que nous commettons les actes appelés péchés. Hein. Les péchés, ce sont seulement l'expression du péché qui est en nous. Et donc, il dit au verset 19, hein, chapitre 5, Romains chapitre 5, verset 19, il nous dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, donc Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Jésus-Christ s'est incarné, il est devenu homme, il prend sur lui notre péché afin de nous offrir la justice de Dieu. Il a pris notre problème, hein, c'est... Il a pris sur lui notre maladie, notre plus grande maladie, notre pire maladie, celle qui nous fait souffrir le plus, le péché. Et Paul dira aux Corinthiens, en parlant de Jésus, 2 Corinthiens 5, 21, il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions justice de Dieu. C'est Jésus qui s'est identifié à l'homme pécheur d'abord. Il l'a fait. Et comme il a été dit tout à l'heure, c'était une grâce de Dieu. Il n'y avait rien qui l'obligeait. Il n'y avait personne au-dessus de lui pour l'ordonner. Il l'a fait de l'abondance de son cœur. Il a exprimé l'amour qui est sa nature. Et il est venu sur la terre et il a pris notre faute. Il a pris notre place. Il a vécu parmi nous. Il a goûté. C'est pas seulement qu'il est venu jeter un œil et puis dire « Ah, j'ai compris ». Non, non, il est venu. Il a passé 33 ans parmi les hommes. Et à une époque où c'était pas beau, il y avait l'Empire romain, il y avait la culture grecque, il y avait les Juifs qui étaient hypocrites et qui faisaient semblant de suivre Dieu alors que ce n'était pas vrai. C'est un moment où il a rencontré des gens possédés de démons de partout, des gens malades à cause de démons, des gens... C'était un moment sombre dans l'histoire humaine. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu. Il n'est pas venu pendant le royaume de Salomon, quand tout allait bien. Il est venu pendant que ça allait très mal, quand tout le monde était en souffrance. Depuis le bébé jusqu'à celui qui était mourant sur son lit, eh bien, il était là. Et Christ est mort sur la croix, non seulement pour nous délivrer de nos péchés, mais aussi pour nous délivrer du péché. C'est pour ça que nous sommes tous pécheurs parce que Christ a désobéi, parce que le péché est en nous. Mais il n'y a aucun homme qui sera condamné à l'éternité parce que le péché est en lui. Mais il sera condamné à cause de ses péchés, les actes. Jésus a pris, c'est Jean qui a dit, quand il a vu venir Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais ensuite, nous sommes responsables pour nos actes et notre péché. L'incarnation du Christ avait un objectif bien plus élevé que celui de montrer de la sympathie. C'était pas juste pour dire « Oh, je vais passer comme font certains journalistes, ils vont et puis soit ils se peignent en noir, soit ils se décrivent en SDF, soit quelque chose, pendant une semaine, juste pour pouvoir vivre la chose et pour ressentir. C'est gentil. Mais Jésus n'a pas fait ça rien que pour dire « Ah oui, je comprends maintenant, vous souffrez, c'est quand même pas, c'est dur pour vous. » Non, non, c'est pas pour nous dire ça. C'était pour nous délivrer, nous sortir de là. Il prend le SDF, il dit « Donne-moi tes vêtements et toi, tiens, prends mon porte-monnaie, pars, prends ma carte et va vivre. » C'est ça qu'il a fait pour nous. Il s'est identifié à nous. Donc cette identification, identifier, ça veut dire que les deux deviennent un. Il partage tout. Et Jésus a tout partagé, pas seulement les limitations de l'être humain, que devoir marcher pour se déplacer, de manger pour survivre, pour dormir, pour ne pas perdre sa santé morale. Et c'est pas seulement ça. Mais il a pris sur lui notre péché. Il est devenu sur la croix. C'était tellement vrai qu'il est devenu notre péché que son Père Céleste, qui a dit « C'est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », il a dû se détourner, il a dit « Je ne peux pas voir ». Vous savez, quand une maman ne peut pas regarder à son enfant à cause de sa souffrance, c'est qu'il souffre terriblement. Et pour Dieu, de devoir se détourner le visage de son Fils à cause du péché, c'est que ce n'était pas beau. Nous, on est un peu habitués à voir le péché, on le voit tout le temps, il y a pas mal de choses qui nous affectent très peu. Puis très peu de gens rougissent maintenant. Très peu de gens baissent la tête devant quoi que ce soit. Ou se détournent et partent quand on parle de certaines choses. Ça arrive très rarement, on est tellement habitué à cela. Mais Jésus est devenu, il a pris ça sur lui. Ça, c'est le Jésus de la Bible. C'est le Jésus que j'aime. C'est le Jésus qui est mort pour nous. C'est le Jésus pour qui je veux vivre aussi. Si lui n'a pas eu honte de devenir homme pour moi, qu'est-ce qui m'empêche d'essayer d'être enfant de Dieu pour lui? Il y a une identification avec où Christ s'est identifié à l'homme pécheur. Mais maintenant, il y a une identification de l'homme pécheur à Christ. Et cela est représenté par le baptême. Regardez, Jésus a dit à ses disciples, quand il les a envoyés, il a dit, dans Matthieu 28, verset 19, il a dit, « Allez, par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Il dit, « Faites des disciples. » Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui est baptisé et ensuite qui suit tout ce qui a été prescrit par Jésus-Christ. Ça va ensemble. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas « donne-moi la vie éternelle, c'est tout ce que je demande, je ne demande pas plus. » Non, non, c'est tout ou rien. Vous dites, mais on ne me l'a jamais expliqué comme ça, mais c'est dommage. Mais à partir d'aujourd'hui, on est responsable. Le baptême représente cette identification de l'homme pécheur avec Christ. Là, avant, c'était Christ qui venait, Jésus qui est venu vers le pécheur. Maintenant, c'est le pécheur qui va vers Christ pour devenir un avec lui. Et le symbole, c'est le baptême par immersion. Regardez Romains chapitre 6 et je vais lire les versets 3 à 4. Romains chapitre 6, les versets 3 et 4. Il dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les eaux de sa mort, par le baptême de... Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » C'est-à-dire cet acte de s'identifier à Christ maintenant, puisque lui s'est identifié à moi, j'ai compris qu'il est devenu homme pour devenir mon sauveur. Maintenant, c'est à moi de répondre et je dis, écoute, moi je deviens un avec toi. Il dit, on devient avec. Et la partie principale de la vie de Christ, du ministère de Christ, c'était sa mort et ensuite sa résurrection. Il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Alors c'est moi qui dis, maintenant je suis prêt à mourir avec toi et vivre pour toi. Et c'est pour ça que nous pratiquons le baptême par immersion, c'est-à-dire que la personne descend dans l'eau comme si elle était enterrée. Hein, quand on enterre les gens, c'est toujours, ils descendent dans le trou. Et puis on met la terre par-dessus. C'est un enterrement, c'est terminé. Mais il a dit, donc c'est un enterrement, mais ensuite il y a une résurrection. Ressuscité pour vivre une vie nouvelle. Et ça met fin à une vie, et c'est le commencement d'une autre vie. Mais on dit, c'est avec toi, lié à toi, un avec toi. Et donc, là, le baptême n'est pas seulement un rituel qui marque un moment où officiellement nous devenons chrétiens. C'est le baptême, et j'en parlerai certainement plus, mais le baptême n'a rien à faire avec le salut. On n'a pas besoin d'être baptisé pour être sauvé, on est sauvé par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est lui qui le donne, c'est pas le baptême qui sauve. On n'est pas plus sauvé parce qu'on est baptisé, on n'est pas moins sauvé parce qu'on n'est pas baptisé. Hein, Jésus a dit à l'homme sur la croix, le brigand là, qui a eu un changement de cœur sur la croix. Au début, il se moquait de lui, mais à la fin, il a compris qui était Jésus. Il dira, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et cet homme, il n'a jamais été baptisé. Hein. C'est par la foi qu'on est sauvé. Mais il a dit, mais une fois que tu es sauvé, la chose normale maintenant, c'est de s'unir à lui, s'identifier à lui, devenir un avec lui, devenir un même corps avec lui, et puis de le déclarer publiquement. Je continue à lire dans Romains, regardez au verset 6. Moi, je commence la phrase au verset 5. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, une même plante, hein, cette identité, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, donc notre nature ancienne, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Il dit, si je suis mort, parce que c'est le péché qui apporte la mort, donc je meurs, le péché a eu ce qu'il veut, et là c'est réglé. Maintenant si je ressuscite, je ne lui dois plus rien, hein. Il n'a plus de pouvoir sur moi, il n'a plus d'autorité sur moi. Vous savez, un autre exemple de cela, c'est dans le cas d'un mariage. Un baptême, c'est très similaire à un mariage. Un mariage, c'est où deux personnes se décident, ben, nous sommes liés maintenant. Hein, donc pour le jeune homme, toutes les autres femmes n'existent plus. Et pour la jeune femme, tous les autres hommes n'existent plus. Maintenant, nous sommes un et nous vivons l'un pour l'autre. Et nous vouons fidélité. Et on ajoute toujours, les formules toujours sont jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que le moment où il y a la mort, eh bien, c'est terminé. Le mariage est terminé. Le contrat est terminé. Et là, c'est possible d'aller se marier avec quelqu'un d'autre. On est libre de faire le choix qu'on veut. Hein? Et donc, mort, je meurs à la vie passée, ça y est, je lui ai rendu ce que je lui dois. Maintenant, le Seigneur me ressuscite à une vie nouvelle et je la vis pour quelqu'un d'autre, pour Jésus-Christ. Il nous dit... c'est ça qui reprend cet exemple du mariage, c'est ce qu'on trouve dans Romains chapitre 7, hein, où il nous dit, je peux lire, hein, si vous voulez, les versets 2 à 5, donc Romains 7, 2 à 5, il dit, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, il est dégagé de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Et donc c'est ce principe. Hein, donc par le baptême, l'unité avec Christ, et ben ça y est, j'ai mis fin à quelque chose, je suis mort, je ressuscite pour vivre une nouvelle vie, nouveau contrat, nouvelle alliance, et c'est justement l'expression que Jésus a employée, hein, c'est dans la chambre haute, quand il a servi la scène la première fois, il a dit, c'était une nouvelle alliance. Romains chapitre 6, verset 11, nous dit « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant en Jésus-Christ. » C'est-à-dire, vous ne devez plus rien au péché. Le péché avait un pouvoir sur vous. Il pouvait exiger des choses. Vous étiez sous son pouvoir. Mais maintenant, la mort a mis fin. Eh bien, vous êtes libéré. Vous ne lui devez plus rien. Il ne peut plus revenir. J'ai acheté une maison et le propriétaire d'avant avait mis plein de rosiers. Et la dame, elle était tellement attachée à ses rosiers, elle est partie en pleurant, elle a laissé la maison pleurant parce qu'elle a laissé ses rosiers derrière. Mais une fois qu'on a signé, moi je pouvais faire ce que je voulais avec ces rosiers. Bon, on les a gardés, hein, parce que c'est des rosiers. Si c'était des cactus, je ne sais pas, mais c'est des rosiers, on les a gardés. Mais en fait, parce que je suis devenu le nouveau propriétaire, je pouvais en faire ce que je veux. Je les déplace, je les envoie, je les vends, je fais ce que je veux. Ça y est, c'est terminé. Il y a la fin d'un contrat, et puis il y a un nouveau qui commence. Bien sûr, les chrétiens, vous savez, les chrétiens, ils peuvent vivre une double vie. Ils peuvent. Mais vous savez ce qui arrive quand un chrétien vit une double vie, hein, c'est-à-dire on dit un pied dans le monde et un pied dans l'église ou avec le Seigneur. Vous savez ce qui arrive avec celui-là? n'y a plus de croissance spirituelle. Il n'avance plus. Et après, il vient et dit, pasteur, je ne comprends pas, il y a des choses que je ne comprends pas, je lis la Bible, je ne comprends pas, j'ai les mêmes problèmes que j'avais il y a 10 ans. Et écoutez, je peux te poser une question. Est-ce que tu as vraiment quitté le monde? Est-ce que tu vis un pied des deux côtés? Quand tu vis un pied des deux côtés, tu n'avances pas. Hein? Avec le Seigneur, on ne peut pas avancer quand il y a un pied des deux côtés. Pour ne pas avoir un pied dans la boue et un pied sur le trottoir, ça ne marche pas. On n'avance pas. Il faut être délivré. Il dit, Seigneur, mais pourquoi c'est toujours les mêmes luttes, c'est toujours la même chose. Et oui, tu n'as pas fait de progrès, mais ouais, oui. Il y a un moment où il faut terminer. On met fin à quelque chose et on commence à vivre une nouvelle vie. Et alors là, c'est la délivrance. Il dit, déliez-le, laissez-le aller et vivre cette vie nouvelle. Jésus, même pendant sa vie, il a parlé de cette identification à lui. Il a dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il dit, tu as honte de moi. Et avoir honte de Dieu, c'est pas seulement dire, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. C'est pas seulement ça. C'est vivre la vie. Vous savez, ce matin, je lisais une méditation sur Daniel. Si vous connaissez l'histoire de Daniel, il a fait partie des victimes de la déportation, il a été emmené à Babylone, et parce qu'il était de famille noble, on l'a emmené dans le palais, et il a fait une formation, et puis, donc il vivait dans le palais de Babylone, à l'époque de la gloire de Babylone. Et vous savez, c'était une autre vie, hein. c'était pas le temple de Jérusalem, hein. C'est le palais du roi. Et Daniel n'a pas seulement dit, vous savez, je suis juif, hein. C'est pas tout, non, il a dit plus que cela. Il a pratiqué sa foi. Et il était tellement juste et tellement fidèle à pratiquer sa foi, que des gens qui étaient jaloux de lui et qui voulaient l'éliminer, ils ont dit, le seul moyen qu'on va trouver quelque chose contre lui, c'est de trouver quelque chose contre sa religion. C'est le seul moyen qu'on peut attraper. C'est Daniel chapitre 6, si vous lisez. Et ils ont dit, c'est le seul moyen de le piéger, c'est de passer une loi qui soit contre ça, les pratiques de sa religion. C'est parce qu'il le vivait. C'était pas seulement, il disait, je suis juif, hein. Il portait à l'intérieur de la chemise, il portait une petite croix de David, une étoile de David. C'est pas ça, hein. C'était, il priait 3 fois par jour. Tout d'un coup, il dit, excusez-moi, et puis il montait, et puis il priait, et puis il se tournait vers Jérusalem et priait. Et c'est comme ça. C'est quand on s'identifie à quelqu'un, on vit pour lui. On n'a pas honte de lui. Vous savez, on parlait de Christ qui n'a pas hésité de s'identifier à l'homme pécheur. Et c'était pas beau sur la croix. Ensuite, il nous demande, il dit, maintenant, si vous avez reçu la vie nouvelle, eh bien maintenant c'est à vous de vous identifier à lui. Et c'est une chose qui se passe d'abord dans le cœur. Ensuite, le baptême, le symbole, n'est qu'une déclaration publique de ce qui s'est déjà passé dans le cœur. Et donc c'est important, en tous les cas, je le considère important de pouvoir constater une vie nouvelle dans la personne. Avant, si c'est moi qui vais la baptiser, j'aime constater ce renouveau, cette vie nouvelle, cette identification où il y a... On a abandonné, je ne demande pas la perfection, parce que sinon moi-même je ne suis pas parfait. Mais c'est de voir qu'il y a un début où on est en train d'être délié de la vie passée et puis on commence à jouir de cette liberté de vivre pour Dieu. L'apôtre Paul dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Et parce qu'on s'identifiait à lui dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et maintenant, on est libre. Je veux lire maintenant les versets 12. Romains chapitre 6, je veux lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Je vais laisser le passage dire ce qu'il a à dire. Hein, donc, suivez avec moi Romains chapitre 6. Et je commence à lire verset 12. Voyez le raisonnement de Paul. Alors, verset 12, il dit « Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. » C'est une différence entre être présent. Il y a des péchés qui existent, mais c'est autre chose, régner. Régner, ça veut dire qu'ils font la loi. Il dit « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. N'obéissez pas à ses convoitises. » Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, c'est-à-dire vos mains, vos pieds, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Hein, c'est dans ce contexte-là qu'il faut prendre ce verset. Il y a des gens qui prennent ça. On ne sont plus sous la loi, c'est sur la grâce. C'est-à-dire, il n'y a plus de règles sur nous, maintenant, sous la grâce, je fais n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est dans le contexte où il dit, tu ne pèches plus, tu abandonnes le péché. C'est ça, vivre sous la grâce. Verset 15, quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Mais loin de là ! Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez été livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, autant vous viviez sous une loi avant, autant maintenant vous vivez sous une autre loi. La loi, l'ancienne, elle vous exploitait, elle abusait de vous, elle ne vous traite pas bien, vous vous laissez entraîner par le péché et vous terminez la vie malheureux. Et vous regardez toutes ces gens qu'on appelle des stars et des idoles qui ont les moyens de faire tout ce qu'ils ont envie de faire et regardez la fin de leur vie. Il y en a très peu qui vivent et qui terminent heureux. Parce que le péché détruit ses fidèles. Tandis que lorsque je me donne à Dieu, eh bien, il cherche mon bien. Et ça va de mieux en mieux. Avec lui. Le baptême est une ordonnance du Seigneur. C'est vrai, il a dit, allez, faites des disciples, baptisez-les. Mais vous savez, on ne peut pas demander le salut de Dieu et puis ensuite refuser l'engagement du baptême. Il dit, oui, tout ce que je veux, c'est être sauvé. Je veux savoir quand, à la fin de la vie, que je vais au ciel. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Il a dit, tu reçois le salut. Mais après, il y a un engagement. C'est comme on a dit, moi, tu es une jolie fille, je t'aime beaucoup, tout ça. Écoute, j'aimerais que tu viennes chez moi, tu vives avec moi, tu fais la cuisine, tu viens maintenant, on a des amis, quand j'ai envie d'aller quelque part, on va ensemble. Tous les beaux moments comme ça, je ne suis jamais seul, c'est tout ça. Mais on ne se marie pas. Hein. Parce que comme ça, si un jour j'ai envie de faire autre chose, je suis libre de le faire. Qu'est-ce que tu penses ? Bon, je sais qu'il y en a pas mal qui font ça. Mais vous savez, après, il ne faut pas se plaindre hein, quand l'autre n'est pas fidèle. J'étais en train de lire des trucs sur l'infidélité. Vous savez, même dans les gens du monde, où ils ne respectent pas du tout les règles de Dieu, quand ils trouvent que leur ami est infidèle, ils se fâchent, ils se mettent en colère et puis ils ont envie de faire des choses. Hein. Même les gens du monde, alors qu'ils disent, moi, non, nous, on n'est pas religion, c'est pas Dieu, c'est rien, nous, on fait ce qu'on a envie. Ah oui, mais ils n'aiment pas l'infidélité. Et vous savez, Dieu non plus, il n'aime pas. L'engagement du baptême, c'est comme l'engagement du mariage. On s'engage à être fidèle. Et dans un mariage, l'infidélité, ça s'appelle l'adultère. Et comment est-ce qu'on doit appeler l'infidélité dans la vie chrétienne ? Vous savez, j'ai été voir un peu sur les contrats. La loi sur les contrats dans le monde, hein, c'est dans le monde. Et voilà ce que j'ai lu. Il dit, en principe, il faut toujours respecter ses engagements. Toutefois, vous pouvez refuser d'accomplir votre part du contrat si l'autre contractant ne respecte pas sa propre part qui devait être accomplie avant la vôtre. Il dit, voilà, à la rigueur. Vous devez garder le contrat, mais si l'autre avec qui vous avez contracté n'est pas fidèle et il n'a pas fait son devoir, vous pouvez ne pas faire le vôtre. Ça, c'est dans le monde. Hein. Et si Dieu faisait comme ça ? Et si Dieu disait, bah, écoute, moi, tu n'as pas gardé ton contrat, hein, moi, après, je ne garde pas le mien. Hein. Je suis libre, hein, c'est toi le premier qui a cassé le contrat. Et si Dieu faisait comme ça, hein, on serait où, nous ? C'est qu'il compte sur notre fidélité. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Vous savez, il y a parfois des gens qui disent que Dieu, c'est l'invention des hommes. Eh bien, s'il avait été inventé par les hommes, il ressemblerait aux hommes. Parce qu'on ne peut pas inventer quelque chose qui ne nous ressemble pas. Mais Dieu, heureusement qu'il ne ressemble pas aux hommes. Et heureusement qu'il ne se comporte pas comme les hommes. Et c'est là le mot grâce a tout son sens. Et quand je dis, après tout ce que Dieu a fait pour moi, le moindre que je puisse faire, c'est de vivre pour lui. Quelqu'un vous sauve de la noyade. Il vous sort de là, il vous amène sur la plage et puis il est là avec vous jusqu'à vous reprenez votre souffle et tout va bien et tout reprend. Après, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui rendre ce qu'il a fait ? Vous allez donner 50 euros ? Non. Vous allez donner 100 euros ? Vous allez donner 1000 euros ? Ça ne paye pas. Parce que lui, il a risqué sa vie pour vous sortir de là. Il n'y a rien que vous pouvez donner. Tout ce que vous pouvez dire, c'est merci. Et pendant le reste de votre vie, dire « Robert, là-bas, il m'a sauvé la vie. » C'est tout ce que vous pouvez faire. Et c'est tout ce que je peux faire pour Dieu. Je ne peux pas lui rendre ce qu'il m'a fait. Mais pendant le reste de ma vie, je peux dire « C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés. Et si je vis, c'est grâce à lui que je vis. Et ce n'est plus pour moi, mais c'est pour lui, Christ, qui est mort pour moi, comme disait l'apôtre Paul. » Il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit quand Lazare a reçu une nouvelle vie ? Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Et vous savez, Lazare, il veut dire, c'est Jésus qui m'a donné cette vie, moi je vis pour lui. C'est la chose normale à faire. Et ça, c'était juste pour une petite extension dans la vie. Mais nous, il nous donne la vie éternelle. Alors, je dis à tous ceux qui ont été baptisés, vous avez pris un engagement, vous étiez fidèles depuis que vous avez pris cet engagement. Ou peut-être si on a demain besoin de dire, Seigneur, c'est vrai, excuse-moi, je n'ai pas été fidèle, mais je veux être fidèle. Je veux vivre autrement à partir d'aujourd'hui. Et pour ceux qui pensent au baptême, comprenez ce que le baptême veut dire pour Dieu. Ce n'est pas important ce que ça veut dire pour vous. C'est ce que ça veut dire pour Dieu, parce que c'est pour lui qu'on le fait. C'est une obéissance à son commandement. Ce n'est pas pour se faire du bien ou se faire plaisir, c'est parce qu'il l'a demandé. Et donc je dois remplir ses conditions et le faire pour lui. Prenons quelques moments de silence et que chacun dise à Dieu ce qu'il a besoin de dire. Et puis après, vous pourrez continuer à la maison ce soir.